Ce soir, nous allons parler de comment surmonter les obstacles à l'accomplissement de notre destinée. Surmonter les obstacles à l'accomplissement de notre destinée. Vous savez, le Seigneur a fait des projets merveilleux pour chacune de nos vies. Si l'histoire devait s'arrêter là, nous serons les plus heureux. Mais malheureusement, il y a l'ennemi de nos âmes qui combat. Et malgré nous, nous sommes rentrés dans un combat. Et ce combat, nous ne pouvons en être victorieux que si nous nous tenons sur le roc qu'est le Seigneur Jésus. Surmonter les obstacles à l'accomplissement de la destinée que Dieu a fait pour chacune de nos vies. Je vais vous inviter à prendre avec moi le texte de 1 Samuel 17, du verset 41 à 51, que je m'en vais vous lire. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la plaça dans sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Et il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua, lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Voilà une histoire qui montre comment le Seigneur agit, comment notre Dieu passe par des chemins qui ne sont pas des chemins d'hommes, mais des chemins que lui seul maîtrise. Mais le résultat est toujours là. Le contexte historique ici, c'est que Israël est en guerre avec les Philistins et David n'est pas encore roi, bien qu'il ait été déjà désigné comme prochain roi d'Israël. Mais David n'était pas encore monté sur le trône. Et quand on regarde cet obstacle qui est devant lui, cette opposition qui est devant lui, on pourrait être ramené au titre de ce message en disant, mais cet obstacle, ce Goliath qui se tenait devant David était un obstacle à la réalisation, à l'accomplissement de sa destinée, qui était d'être le roi d'Israël. Et ce combat avec Goliath sera vraiment un combat victorieux de la part de David. Et cette victoire vient tout simplement du fait qu'il a invoqué le nom du Seigneur. Il n'a pas compté sur ses propres forces. Il s'est tenu sur les promesses. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Toutes les fois que nous tenons sur les promesses du Seigneur, nous avons la victoire. Parce qu'il veille sur ses promesses pour les accomplir. Oui, le Seigneur a réservé d'abondantes bénédictions pour ses fils et pour ses filles que nous sommes. Comme dit Deutéronome 28, du verset 12 à 13. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et ne seras jamais en bas. Quand je lis souvent ces paroles, je me dis, Seigneur, est-ce que nous devons interpréter cela d'une autre façon ou de façon littérale? Je pense que nous devons l'interpréter de façon littérale. Le Seigneur dit, n'est-ce pas, sans embâche ici, que nous serons toujours la tête et nous ne serons jamais la queue. Nous serons toujours en haut et jamais en bas. Que fait-il donc que quelquefois nous nous trouverons dans cette position de bas, cette position de queue? Telle est la question que nous allons voir, n'est-ce pas, ce soir. Oui, Dieu a fait un projet de bonheur pour chacun de ses enfants. Et ceci, on peut le voir aussi dans Jérémie 29, verset 11, qui dit ceci, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Oui, Dieu a fait un projet de bonheur. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les tempêtes dans lesquelles nous traversons, n'oublions jamais que Dieu a fait un projet de bonheur pour notre vie. Et le premier projet, c'est celui. Nous sommes tout simplement des enfants de Dieu. Nous sommes de la race des élus. Nous attendons le retour du Seigneur. Nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle en Christ. Et ça, c'est déjà quelque chose de sans prix. Et en plus de cela, en attendant le retour du Seigneur, il prend soin de nous jour après jour. Il met des chemins sur lesquels nous devons passer. Ces chemins sont des chemins de bonheur et non pas de malheur. Oui, l'Éternel a prévu une destinée merveilleuse pour chacun de ses serviteurs et chacune de ses servantes. N'en doutons point. Nous pouvons trouver des exemples dans les Saintes Écritures, comme Joseph. Qu'est-ce que Joseph n'a pas souffert? Il a été vendu par ses frères. Il a été esclave. Il a été prisonnier. Il a cumulé les deux, esclaves prisonniers. Mais à la fin, il est passé par des chemins que le Seigneur lui-même avait tracés. Il s'est retrouvé premier ministre d'Égypte. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Gédéon qui se sentait tout petit, il était dans la tribu la plus pauvre et il était le plus petit de cette tribu, donc le plus petit des petits. Mais le Seigneur l'a sorti de là. Le Seigneur voyait en lui un vaillant guerrier. Et c'est Gédéon, ce Gédéon qui sera le libérateur, n'est-ce pas, d'Israël, de la main de Madian. Le roi David, qui est un berger, un jeune berger, qui ne s'attendait à rien, n'est-ce pas, le Seigneur l'a appelé de sa bergerie pour le faire monter sur le trône d'Israël. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Donc, ça veut dire que le Seigneur a fait des projets de bonheur. Et ce projet de bonheur ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de ce que nous sommes, nous. Ça dépend tout simplement de la déclaration du Seigneur. Il a dit, et quand il dit, la chose se passe. Oui, ce que les enfants d'Israël doivent donc ne pas perdre de vue, c'est que, étant donné que le Seigneur a donné ce projet de bonheur, n'est-ce pas, le diable va tout mettre en œuvre pour mettre des obstacles, pour empêcher à tout prix à cette destinée de s'accomplir. Et nous sommes embarqués, malgré nous, dans un combat. Et ce combat est réel, acharné. Nous ne devons pas sous-estimer ce combat. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Parce que nous partons de la victoire pour la victoire. Même si après il y a des chemins sinueux, des hauts et des bas, nous partons de la victoire pour la victoire. Et nous devons donc surmonter ces obstacles qui se dressent devant nous. Nous avons vu l'exemple de David. Il n'a pas reculé. Il n'a pas abdigué. Il a confronté l'obstacle. Pas parce qu'il était musclé, pas parce qu'il se sentait fort, parce qu'il se tenait sur les promesses de Dieu. Et quels sont donc ces obstacles qui peuvent joncher, n'est-ce pas, notre chemin dans la réalisation de la destinée que le Seigneur a réservée pour nous? Quels sont ces obstacles? Nous allons les voir. Chacun en aura pour sa, n'est-ce pas, pour sa gébécière ce soir, parce qu'il y en a. Le premier, c'est le mépris. Le mépris. Quand on prend l'exemple du roi David, quand le prophète Samuel est venu, envoyé de Dieu, pour oindre dans la maison d'Isaïe, qui était le père de David, le roi d'Israël, le père de David a appelé tous ses frères, parce que c'était des costauds, c'était des beaux, c'était... Mais il a oublié quelqu'un qui était dans les champs. Il a dit, mais celui-là, je ne pense pas. Il a méprisé. Je ne pense pas que ce soit lui. Il est tout petit, il est trop maigrichon, il est négligeable. Ça ne peut pas être lui. Il ne s'est pas souvenu de lui. Mais Dieu s'est souvenu de David. Et c'est David, finalement, malgré le mépris des siens, qui a été couronné roi d'Israël. Nous pouvons aussi nous sous-estimer. Je pense qu'on doit être humble, certes, mais quand Dieu déclare quelque chose sur notre vie, nous appelle à une destinée, après avoir checké et voir que c'est Dieu qui nous appelle à cette destinée, quelle que soit la grandeur de cette destinée, nous ne devons pas nous sous-estimer. Parce que nous ne devons pas compter sur nous-mêmes. C'est Dieu qui le fera. Oui, l'accomplissement de notre destinée n'est pas de notre ressort. C'est le ressort de Dieu. Et il le fera comme il veut, quand il veut, où il veut, et il utilisera qui il veut pour l'accomplir. C'est Dieu qui va vous appeler. Et quand il va vous appeler, il va vous équiper. Il va vous équiper. Si vous avez besoin d'équipement, il va vous équiper. Et après, il va vous envoyer. Et notre responsabilité, c'est aussi de chercher la face de Dieu. Reconnaître Dieu dans nos voies. Puis, obéir à la parole de Dieu. C'est ça notre responsabilité. Et Dieu fait le reste. Nous avons ici l'exemple de Gédéon. Sa destinée, c'était de libérer le peuple d'Israël de la domination de Madian. Mais bien sûr, il va se sous-estimer. Il va se sous-estimer en disant, de grâce, je ne me sens pas de taille. Je ne me sens pas de taille, Seigneur. Mais le Seigneur va dire dans Juges 6, de versets 14 à 16. L'Éternel, à 16, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » C'est la même parole que le Seigneur Jésus nous a dite quand il partait de ce monde, dans Matthieu 28. « Et voici, je suis avec vous maintenant jusqu'à la fin des temps. » Il est avec nous, le Seigneur. Ça veut dire que tout ce que Gédéon a pu faire, parce que Dieu était avec lui, nous pouvons aussi le faire. Ne nous sous-estimons pas. Ce n'est pas par nos muscles, notre force de persuasion. Non, c'est par les promesses, en nous tenant sur les promesses de l'Éternel, que les choses vont se passer. Un des obstacles aussi, c'est la désobéissance. La désobéissance, la parole de Dieu. Samuel 15, versets 22 à 23 dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice parce qu'il vaut mieux obéir que d'être en train de faire des choses pour Dieu. Monter, descendre, chanter à la chorale, courir par-ci, courir par-là, évangéliser même. À vrai dire, Dieu préférerait que nous puissions lui obéir. Parce qu'en obéissant, nous serons dans sa volonté parfaite. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et toujours, en parlant d'obéissance, dans Josué, le chapitre 1er, au verset 8, il est dit ceci, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Ça veut dire en fait tout simplement, si tu veux réussir, obéis à la parole de Dieu, médite la parole de Dieu. Serre jalousement la parole de Dieu dans ton cœur et agis fidèlement selon cette parole. Oui, si tu veux couler dans la destinée que Dieu t'a réservée, alors surmonte la désobéissance et marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Quatrième obstacle, l'orgueil. L'orgueil. Lorsque Dieu te donne une grande destinée, l'orgueil ne sera pas très loin. L'orgueil va rôder tout autour. C'est ce qui s'est passé avec David. Alors que le Seigneur lui avait donné des grandes victoires, tout simplement parce qu'il consultait toujours Dieu avant d'aller combattre et Dieu lui donnait des victoires. Et à un moment donné, il a cru sans doute que ces victoires provenaient de sa stratégie, parce que c'est un homme de guerre, ou aussi le nombre de ses combattants. Et il lui est venu en idée de faire ce qu'on appelle le dénombrement de ses hommes en armes. Le dénombrement, pour voir sa puissance de son armée. Et bien sûr, ceci a été poussé par l'ennemi de nos âmes, qui n'est pas toujours loin, qui n'est pas toujours loin. Parce que dans 1 Chronique 21, verset 1, il est dit ceci, « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » Donc c'est lui qui était là derrière en train de faire monter, de faire mousser un peu l'orgueil. Et bien sûr, une fois que ce dénombrement a été fait, le Seigneur va reprendre vigoureusement David. Dans 1 Chronique 21, versets 7 et 8, il dit ceci, « Cet ordre déplut à Dieu, et il frappa Israël. » Et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Attention à l'orgueil qui rôde autour de vos réussites. Attention. Cinquième, l'oubli des promesses de Dieu. L'oubli des promesses de Dieu. Il est écrit que les paroles de la prophétie doivent être gravées pour qu'on puisse s'en souvenir. C'est Habacuc 2, versets 2 à 3, qui dit « Et l'Éternel s'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. » Donc, le souvenir des prophéties. Ne pas oublier. L'oubli aussi des bienfaits de Dieu. Vous savez, Dieu peut faire beaucoup de choses dans nos vies, mais quand viennent les tempêtes, si on ne s'en souvient pas, on sera ébranlé. On sera comme apnésique. Ne voyant que, n'est-ce pas, le souffle de la tempête qui est en train de nous emporter. C'est pour ça que le psalmiste va dire « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Aucun de ses bienfaits. Donc nous devons nous souvenir des bienfaits. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fait aujourd'hui, il le fera encore. Et là, on se tient là-dessus et on avance avec le Seigneur. Le manque de foi et l'incrédulité, c'est aussi un obstacle. Le manque de foi et l'incrédulité. Vous savez, quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, la promesse était qu'il devait rentrer dans la terre promise. C'est sa destinée, rentrer dans la terre promise. Et bien sûr, c'est en mettant leur foi en Dieu que ce peuple va finalement entrer dans la terre promise. Ceci va prendre quand même 40 ans au lieu de quelques semaines. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça a pris tant de temps ? Tout simplement parce que le peuple a été rebelle, le peuple a été incrédule. Ça veut dire que quand nous sommes rebelles et incrédules, nous retardons l'accomplissement de notre destinée. Et bien sûr, pire encore, beaucoup sont morts dans le désert, ils n'ont pas vu la terre promise. Huitième obstacle, le doute. Le doute. La parole de Dieu déclare que celui qui doute n'espère pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que cet homme, c'est un homme inconstant dans toutes ses voies. Le doute. Nous devons lutter contre le doute, repousser le doute, prier, jeûner s'il le faut, pour chasser de nous le doute et nous tenir avec foi devant notre Dieu. Neuvième obstacle, c'est une faible vie de prière. Une faible vie de prière. Nos victoires s'obtiennent à genoux devant notre Dieu. Si vous voulez avoir des victoires, ce n'est pas crier partout, ce n'est pas sauter partout, c'est tout simplement se tenir dans le silence à genoux devant Dieu. Passer du temps dans la prière. La parole dit qu'il faut prier sans cesse. Prier en prenant chacune des armes de Dieu que nous donne ici Éphésiens 6, versets 14 à 18. Prendre la ceinture de la vérité, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile qui sont beaux. Sur la montagne, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Prendre le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Il faut couronner tout ça par une persévérance dans la prière. La prière persévérante, encore et encore. Surtout quand on a reçu de Dieu une promesse. Oui, ça veut dire que cette promesse va s'accomplir. Donc on se tient devant Dieu avec foi. Dixième obstacle, c'est le manque de discernement. Manque de discernement. Chaque enfant de Dieu doit demander du discernement à Dieu. Surtout dans ces temps troubles, n'est-ce pas, que nous traversons dans notre monde, où le bien est appelé mal, et le mal est plébiscité et appelé bien. On s'y perd. Que le Seigneur nous aide à avoir du discernement afin de lui être agréable, être dans sa volonté parfaite. Onzième obstacle, l'infidélité. Le Seigneur est fidèle avec qui lui est fidèle. C'est une règle mathématique. Si vous voulez que le Seigneur marche en fidélité avec vous, soyez fidèle avec le Seigneur. Je n'ai rien à ajouter. Douzième obstacle, la jalousie. Vous savez, quand le Seigneur va vous bénir, vous aurez une grande destinée, ça va susciter de la jalousie. Il faut le savoir, tout simplement. C'est ce qui s'est passé avec Joseph et ses frères. Joseph a été jalousé par ses frères et ils ont développé contre lui de la rancœur, de la rancune. C'est ce qui peut nous arriver. Quand j'étais jeune, je me disais, je ne cherche pas les problèmes dont je n'en aurais pas. Faux. Faux. Ce n'est pas parce que vous ne cherchez pas des problèmes que vous n'en aurez pas. Vous en aurez. Pourquoi? Parce que l'ennemi de nos âmes va tirer les ficelles dans l'ombre afin que vous rentrez dans des tempêtes. Vous aurez des tempêtes, mais vous êtes victorieux au nom de Jésus. Treizième obstacle, la haine. Après la jalousie, bien sûr, la jalousie va produire la haine. C'est ce qui s'est passé avec Joseph et ses frères. C'était ses frères, mais quelquefois nous n'avons que des voisins, nous avons des gens qui passent, et puis quand ils ne nous aiment pas, on se plaint. Mais c'était ses frères, à cause de la jalousie qu'ils avaient développée, la rancœur, la rancune. Ils sont partis jusqu'à la haine la plus extrême. Ils sont saisis de leurs frères. Et ils l'ont vendu en esclavage en Égypte. Vous voyez ce que la haine peut faire. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur Jésus n'a pas dit qu'il n'y a que les bonnes choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce qui est écrit? Non. Toute chose. Même des choses les plus difficiles, dures, vont concourir à la réalisation de votre destinée. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Parce que par ces problèmes de famille, ces moments difficiles qu'il va passer en Égypte, etc., Dieu va l'amener quelque part. Il va se retrouver premier ministre d'Égypte. Il n'y avait que le trône qui le séparait de Pharaon. Quatorzième, bientôt j'ai fini, l'adversité et l'opposition. L'adversité et l'opposition. J'ai souvent mon frère Dominique, vous le connaissez, il est doux comme un agneau, mais il a un voisin qui ne laisse pas tranquille. Je suis sûr que si tu n'étais pas chrétien, vous serez des bons amis. Le diable tire des ficelles dans l'ombre. Il va provoquer des adversités, des oppositions. Sois-en sûr. Mais nous devons être avertis et nous tenir sur le roc. Le diable va mettre devant nous des Goliaths comme il a mis Goliath devant David. Mais notre latitude à avoir, c'est tout simplement de nous tenir avec foi sur les promesses de Dieu et avancer. Parce que les tempêtes sont là pour passer et non pas pour rester et demeurer. Ils sont là pour passer. Nous sommes là pour les comptabiliser. Passe. Amen. Parce que le Seigneur est avec nous. 15e, je vous assure, c'est le dernier obstacle. Le fait de s'assoupir spirituellement, ne pas veiller, ne plus veiller. Vous savez, cette histoire de Matthieu 25, du verset 1 à 2, des 10 vierges, avec 5 vierges qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. Et bien sûr, la différence entre les vierges, c'était les 5 sages étaient celles qui veillaient, qui ne s'étaient pas laissées assoupir, distraire. Et d'autres, les folles, c'est celles qui s'étaient laissées distraire, qui n'avaient pas veillé suffisamment. Pourtant, les 10 attendaient le retour du Seigneur. Non, ce n'étaient pas les inconvertis, non. Tout simplement, les saints folles s'étaient laissés distraire, avaient oublié de se focaliser sur l'essentiel. Ils avaient lâché, comme on dit souvent, la proie pour l'ombre. Nous devons veiller. Que le Seigneur vraiment nous donne de veiller afin de surmonter tous les obstacles à l'accomplissement de la destinée merveilleuse qu'il a formée pour chacune de nos vies. Soyez abondamment bénis. Amen.